Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui le deuxième épisode du livre « Parle-moi d'amour » de Michel Coast, édité par les Éditions Ouvrières. Voici en quelques mots le résumé que l'auteur en a donné. C'est un recueil de textes, de réflexions et de méditations sur l'amour. Certes, cette méditation est habillée d'une histoire. Un jeune visite régulièrement un stage qui lentement le guide dans sa découverte de l'amour. Mais cette histoire n'est qu'un support artificiel, une occasion pour introduire à la méditation, histoire volontairement floue où s'expriment deux personnages principaux au visage à peine esquissé afin de laisser à l'imagination des lecteurs un espace de liberté suffisant pour leur permettre de retrouver au-delà des circonstances particulières leur propre recherche du cœur. Nous allons reprendre le chapitre 4. J'étais à la porte du sage. Cette fois, ce n'était point un rêve. Je frappai. Quelques longs jours encore, j'avais hésité, ayant l'impression de céder devant quelqu'un ou quelque chose de plus fort que moi. Je n'aime pas perdre. Surtout, j'avais peur. Une peur panique d'être entraînée dans je ne sais quelle aventure, sur des chemins inconnus où je ne voulais pas aller. Pour me donner du courage, je me traitais de lâche. Et puis, j'étais inquiet. Que me dirait le sage après une si longue absence ? Il dit doucement : « Assieds-toi vite, mon petit, tu dois être très fatigué. » « Et pourquoi fatigué ?» Parce que c'est épuisant de lutter contre soi. Beaucoup d'hommes ainsi perdent beaucoup de temps et beaucoup de force. Ils se débattent pendant de longues années, se blessent, se déchirent, abandonnant en route des lambeaux de leur vie, tandis qu'au loin s'envolent leurs bonheurs effrayés. D'autres hommes, c'est plus grave, ne savent même plus qu'à eux se déroule un combat. Ils ont tout à fait pour s'étourdir, ils ont tout fait pour cela, se distraire. Le bruit de leur lutte ne parvient plus à leurs oreilles mortes. Mais la guerre dans la nuit est plus cruelle encore. Leur vie saigne en silence. Un jour, ils se réveillent exsangues, titubants sur le bord de la route. Rassure-toi, mon petit. Ceux qui acceptent le combat et se rendent, ceux-là ne sont pas les plus faibles, mais sûrement, ils sont les plus forts. Le sage me regardait longuement. Je soutenais difficilement son regard et je me dérobais. Je savais qu'il lisait dans mon cœur entrouvert, mais fier, je voulais qu'il n'apprenne de moi que ce que je lui dirais. Je résolus de parler et lui contai mes orages, ceux qui couvent longtemps sans jamais éclater comme certains soirs d'été aux nuits étouffantes et ceux qui déchirent tout de leur lame de feu. Je parlais, plus que je n'avais prévu. Il m'écoutait, immobile, tout entier recueilli, et son merveilleux silence libérait une à une mes paroles enfermées. Lorsque je me taisais parce que des mots en moi trop profondément enterrés ne parvenaient à soulever la pierre de leur tombeau, il attendait, plus attentif encore, et quand, enfin, au bord de mes lèvres, il les voyait paraître, un de ses lumineux regards rejoignait mon regard pour lancer un pont de lui jusqu'à moi. Et je parlais encore. Parlant, je pensais, pourquoi y a-t-il si peu d'hommes qui savent écouter comme cet homme-là ? Tant de mots pourrissent dans les tombeaux des cœurs, mots et cris faits pour le vent et pour d'autres cœurs qui, peut-être, en ont faim. Des hommes mourront qui ne se seront jamais dit. Je le savais, moi, qui tant et tant de fois aurais voulu parler, surtout lorsqu'on m'interrogeait en disant Que penses-tu ? Et que je répondais, rien. Car, je le reconnais, certains avaient tenté de me faire parler, mais les mots qu'ils m'avaient arrachés avaient gardé en moi de profondes racines. Ils avaient repoussé plus robustes et vivaces, ils encombraient mon cœur, j'étouffais et n'y voyais plus rien. Mais ce jour-là, je compris que je pourrais tout dire aux sages, et déjà j'en souriais. « Pourquoi souris-tu » dit-il. « Parce que je me libère. » « Tu viens, mon petit, de découvrir une profonde vérité. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, ne se connaissent pas parce qu'ils croient, orgueilleux, que seuls ils peuvent accoucher d'eux-mêmes. Or, nul ne peut se révéler à ses propres yeux s'il ne se révèle devant un autre, attentif et aimant. Va maintenant, il est tard. Reviens demain. À mon tour, je parlerai. » Chapitre 5. Et le sage parla. Je l'écoutais. Libre de mes paroles, j'avais maintenant un peu plus de place en mon cœur pour accueillir les siennes. Tu as compris, mon petit, toi-même cette fois, que l'amour est premier au cœur de l'homme et que l'homme est capable de sacrifier sa vie pour que vive un amour. Et toi, lorsque, enfermé dans ta chambre intérieure, douloureux, tu subis tes orages, c'est parce que tu es seul, incapable de parler et cruellement sevré d'amour. Quand l'autre soir, tu as tant souffert, si un ami, un vrai, était venu, s'il t'avait offert sa main et son sourire, s'il t'avait dit « Viens, j'ai besoin de toi, pour moi et pour les autres », combien de nuages, dis-moi, se seraient évanouis dans ton ciel retrouvé ? Mais, d'amis, il n'en est point venu. La solitude des hommes enfermés est une affreuse maladie. Cancer du cœur, qui se répand inexorable en notre monde en peine. Regarde. Dans la ville monstrueuse, des hommes ont parqué d'autres hommes pour qu'ils vivent ensemble comme abeilles dans la ruche. Mais serrés dans leur boîte, empilés vers le ciel, ils souffrent comme en prison et ne font que se croiser sur les chemins de ronde. Des familles éclatées ne sont plus corps vivants. Leurs membres arrachés saignent sans que guérissent les plaies, et les couples eux-mêmes, qui tant croyaient s'aimer, ne sont plus que deux mornes solitudes, couchées dans le même lit, mais couchées côte à côte. Tant et tant de navigateurs solitaires n'ont pu trouver un port où se ravitailler et partager l'or pur puisé au coffre de leur cœur. Ils voguent à la dérive, ballottés par les vents, lançant au creux des nuits leurs signes de détresse. Mais qui voit leurs signaux et qui sort de chez soi? Il fait trop froid dehors quand on aime le chaud. Des hommes libérés, disent-ils, de tous les vieux tabous, de leurs doigts, de leurs lèvres, espéraient enfin communier à leurs frères. Mais les corps glissent sur les corps quand les hommes avides n'ont point trouvé des cœurs ni des clés, ni les portes. Certains hommes se taisent, douloureusement fermés, tandis que d'autres parlent, jetant leurs mots à la face des autres. Mais dans le même instant, les autres jettent les leurs, et les mots se cognent entre eux, roulent à terre et se cassent. Ils rêvaient de rencontres, mais l'un et l'autre disaient « Je voulais bien de lui pour l'amener chez moi, mais il voulait de moi pour m'amener chez lui. » Et l'un et l'autre demeurèrent chez eux, accouplés à leurs rêves seulement. Et pendant ce temps-là, des enfants pleurent, cherchant quelqu'un qu'ils puissent appeler « père ». Des malades crient, mordus par la souffrance. Des vieillards agonisent, filant leurs dernières heures. On paye pour les calmer et calmer nos consciences, mais aucune pommade, fussent-elles les plus douces, ne peuvent remplacer la fraîcheur d'un baiser. C'est ainsi, mon petit, que des hommes, de plus en plus nombreux, emmurés dans leur mortelle solitude, malgré la foule, malgré les bruits et les chansons, malgré les mains tendues et les corps qui s'offrent, malgré les bonnes idées et les bons sentiments, malgré les luttes et les victoires pour la justice, malgré les lois et tous les règlements, malgré la science et toute la technique, malgré tout, les hommes jamais ne sortiront de leur prison s'ils ne sont pas aimés et ne savent pas aimer. Oh, mon petit, puisque maintenant tu commences à comprendre, si tu veux, fais un effort pour aimer. Tu sauveras des frères et te sauveras toi-même. Je ne répondais rien. J'avais peur de dire oui. Doucement, il insistait. Essaye. Ouvre ta porte aux autres. Tu ne les entends pas encore appeler, mais tant et tant attendent que tu viennes leur ouvrir. Sors de chez toi. Tu es pauvre des autres. Tant que de leur vie tu ne t'es pas enrichi en les enrichissant. Essaye. Et si enfin tu entr'ouvres ta porte, je te le garantis, par ta porte entr'ouverte entrera le soleil. C'est parce que tu la tiens fermée que tu es dans la nuit. Voir 1 Jean chapitre 2, le verset 11. Alors, sans bien réfléchir, je l'avoue, comme un parachutiste qui se lance dans le vide à cause du moniteur qui le regarde, oui, ce fut cela. À cause du regard du sage. J'ai dit, j'essayerai. Et le sage me dit, merci. Merci pour toi et merci pour le monde. Je ne compris pas ce que voulait dire ces merci. Chapitre 6. J'étais décidée, puisque je l'avais dit, j'essaierai. J'ai essayé une fois, deux fois, plusieurs fois. Je reconnais que je connus un peu de joie. C'était sûrement le soleil annoncé par le sage. J'étais moins seule, moins tourmentée, me levais le cœur presque léger. Je redoutais souvent les réveils. Certains matins, spécialement en semaine à cause du travail, la journée me paraissait d'avance tellement morne et sans attrait que je ne rêvais que du moment où, à nouveau, je pourrais me coucher et dormir. Bref, j'étais plus heureux, mais n'était-ce pas la fierté de triompher de moi? Et puis, qui ne sait que l'on se fait plaisir en essayant de faire plaisir? Enfin, que savais-je de l'amour? L'idée et l'expérience que j'en avais me paraissaient tellement loin de ce dont le sage parlait. Mais j'avais promis, et encore une fois, je tins parole. Je tentais de m'arracher à moi-même, d'oublier un peu mes problèmes, mes désirs, pour aller vers les autres. N'était-ce pas cela que le sage attendait? Un camarade avait envie de parler de lui. J'avais envie de parler de moi. Je l'écoutais, pensant au sage. Étonné, puis heureux, ce camarade me nie qu'il me confiait des soucis qu'il n'avait jamais confiés à un autre. Mais le lendemain, il revint pour me parler encore. À la sortie du travail, on me présenta un tract. D'habitude, je jetais ces papiers. Je le pris, je le lus. On me dit, « Tu es intéressé? Viens à la réunion ce soir. » J'y allais. Mais à la réunion, on annonça une autre réunion. On me demanda un service. J'acceptai de le rendre. Mais 3 jours après, on me sollicitait encore. Ça ne pouvait durer. Où irais-je si je tentais de maintenir ce cap? Vers quelles terres inconnues? Et moi, que deviendrais-je? Qui penserait à moi si je pensais aux autres? Et puis je me forçais. Or, était-ce aimer que se forcer à aimer? J'abandonnais. Malgré les excuses que facilement je me trouvais, j'étais mal à l'aise, humiliée. N'avais-je pas battu en retraite? Ne m'étais-je pas lourdement trompée, entraînée malgré moi par l'étrange ascendant du sage? Il m'avait dit « si tu veux ». Mais il me l'avait dit en posant son regard sur moi, ce regard qui apaise, mais aussi qui invite à sortir de chez soi, tant l'air est étouffant dans la maison fermée. Ce regard qui semblait dire « je t'aime » et qui me laissait libre en m'obligeant quand même. Et puis, À nouveau, les nuages s'amoncelaient dans mon ciel trop bas, tandis que la lumière tant désirée, tant attendue s'éteignait lentement. Ne connaîtrais-je pas une nuit plus profonde, maintenant que j'avais entrevu le jour ? Oui, j'étais inquiet et déçu. J'en voulais au sage, et je me promettais de le lui dire. Chapitre 7. J'avais préparé mes mots et mes phrases, comme on prépare des munitions pour le combat. Mais quand je fus devant mon adversaire, mes humeurs guerrières s'évanouirent et timidement, cherchant à l'avance une excuse et peut-être secrètement un encouragement, je ne sus que murmurer « C'est dur d'aimer !»« Beaucoup plus dur que tu ne penses, » répliqua le sage. J'étais décontenancé. Était-ce ainsi qu'il espérait obtenir de moi quelques efforts ? Mais je me disculpais encore. J'ai loyalement essayé pour vous faire plaisir. Il m'arrêta tout net. Ce sont les tout petits enfants qui font des efforts pour faire plaisir à leurs parents. Les jeunes et les adultes, s'ils en font, doivent les faire pour eux-mêmes. Ce sont eux qui, en premier, sont responsables de leur vie. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé à vivre, répliquai-je vivement. C'est vrai, nul ne se donne la vie à lui-même, il la reçoit. Et vivre, c'est d'abord accepter sa vie. Beaucoup d'hommes végètent tristement parce qu'ils n'ont pas dit oui à leur vie. Mais s'ils acceptent cette vie et s'ils en cueillent les fruits, il leur faut aussi accepter de les faire pousser. L'arbre n'est pas responsable de ses fruits, mais l'homme, il l'est ou il n'est pas un homme. C'est pour cela que lorsque j'eus décidé de faire effort, vous m'avez dit « merci pour toi ». Oui, mais vous avez ajouté « et pour les autres ». Parce que les autres ont faim et que tu leur dois tes fruits. Quand tu cueilles les leurs sans leur offrir les tiens, tu es un parasite. Si l'humanité souffre atrocement en des millions et des millions de ses membres, c'est parce que beaucoup d'hommes se nourrissent de la vie des autres, sans les nourrir de la leur. Je pourrais, pour te le montrer, t'exposer de grandes théories. Certains en ont élaboré de très bonnes. Je pourrais faire appel à des spécialistes, psychologues, sociologues, économistes, politiciens. Ils t'enseigneraient avec des mots savants. Je ne le ferai pas. J'ai moi-même étudié longuement, avidement, pour éclairer mon esprit inquiet. J'ai lu beaucoup de livres, mais il m'en manquait un, le livre de la vie. Alors, j'ai regardé autour de moi, j'ai écouté et j'ai compris ce que je n'avais pas compris. J'ai surtout compris beaucoup plus profondément, car les idées sans vie sont squelettes sans chair. J'ai découvert enfin qu'on pouvait parler de problèmes très graves avec des mots très simples, trop simples peut-être pour les esprits forts, mais lumineux pour ceux qui les lisent avec les yeux du cœur. J'étais étonné et heureux, car pour la première fois, le sage parlait un peu de lui. Une petite lumière s'allumait pour moi en son profond mystère. Dans la pièce où il m'accueillait, dès les premières rencontres, j'avais observé les étagères couvertes de livres. Les murs en étaient tapissés. J'étais fascinée et attirée. Avait-il lu tous ces ouvrages ? Je n'osais pas le lui demander, mais je ne doutais pas un instant qu'il ne fût un savant. Je m'étonnais cependant qu'il ne parlât pas comme un savant. Je comprenais tout ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, je découvrais que lui aussi avait cherché, longuement avait-il dit, et de le savoir me réconforta et m'encouragea. Il poursuivit. « Vois-tu, petit, c'est avec mon esprit, mais aussi mon cœur et toute ma vie que maintenant je sais ce que je sais. Je sais que si des hommes par milliers meurent de faim, tandis que d'autres au même instant meurent de trop manger, c'est que nous n'avons pas su partager le blé et pétrir le pain pour nos frères humains. Je sais que si tant et tant de jeunes éclatent de violence, voulant prendre de force ce dont ils ont été privés, c'est qu'ils sont nés par erreur, au hasard d'une étreinte, ou voulus comme poupées par des parents-enfants après l'automobile et le petit chien. Je sais que si des hommes ne voient que signes noirs et muets sur les pages d'un livre, c'est que certains gardent le savoir pour eux comme un don réservé. Je sais que si la terre est propriété et profite pour quelques-uns, alors qu'elle n'est que chantier de travail et de peine pour la multitude, c'est que les hommes ont oublié que la terre est à tous et non pas aux plus forts. Je sais que si certains hommes, il est vrai, sont plus riches d'intelligence, de santé, de courage que d'autres, leurs richesses sont une dette envers les démunis. Mais je sais aussi que trop souvent cette dette s'accroît sans être remboursée. Je sais que si des millions d'hommes vivent sans qu'ils puissent, libres et responsables, prendre leur place dans la construction du monde, c'est que quelques-uns se croient nés pour être maîtres et qu'il leur faut des esclaves pour pouvoir le rester. Je sais que si des milliers de prisonniers agonisent dans des camps ou hurlent sous la torture, c'est que des hommes se font propriétaires de vérité et qu'ils tuent lentement les corps pour que meure la pensée. Je sais aussi, et j'admire, que des hommes partout se dressent courageux et debout, jettent leur corps saignant dans les luttes pour la justice et pour la paix. Mais je sais aussi que d'un corps qui combat sans un cœur qui bat ne peut naître une victoire, car les luttes sans amour sont des luttes en vain. Le sang qu'elles font couler appelle un autre sang. Je sais beaucoup d'autres choses. Tu le sais aussi, mon petit, mais peut-être n'oses-tu pas entendre, n'oses-tu pas regarder? Sois courageux. Regarde cette tragique humanité qui se traîne sanglante sur le long, tout le long du chemin de croix de l'histoire. Regarde ses membres écartelés, crucifiés aux quatre coins de l'espace et du temps. Écoute ces clameurs qui montent de la terre, s'unissent et se rassemblent en un grand cri de nuit. « J'ai soif !» L'humanité souffre et meurt, je te le répète, torturée, crucifiée par la faute des hommes et par notre faute à tous. Je savais, mais je ne voulais pas savoir. Chapitre 8. Oui, je savais. J'avais regardé, j'avais écouté. Qui peut échapper aux voix et aux images qui, presque chaque jour maintenant, au moment de manger, au moment de dormir, méchamment vous agressent comme gifles en plein visage? Qui peut éviter cette invasion de l'humanité souffrante entre les quatre murs étroits de nos salles de séjour? Qui peut empêcher qu'au creux de certains silences, un mystérieux écho répercute à l'infini les cris des opprimés? Mais était-ce de ma faute à moi, si j'avais eu un père, une mère, si j'avais un toit sur ma tête et du pain dans mon assiette? Était-ce de ma faute si j'avais appris à lire et si j'avais un travail qui me faisait vivre? Je me débattais. La souffrance du monde m'atteignait comme un cuisant reproche et je ne pouvais le supporter. Oui, j'avais écouté, j'avais regardé, mais je ne pouvais plus entendre et ne plus voir. Je fermais à clé toutes mes portes. Certains jours, cependant, les images étaient plus dramatiques, les cris plus déchirants et mes serrures sautaient les unes après les autres. Je n'y pouvais rien. C'était l'invasion dangereuse, car en moi sommeillait une sourde révolte, terrible, dynamite profondément enfouie tout au fond de mon être. Mon cœur explosait et faisait exploser ma tête. Alors mes pensées jaillissaient, se bousculaient, s'entrechoquaient. Je reconnaissais que toutes ces souffrances étaient atroces, injustes, monstrueuses. Il fallait des coupables. J'en trouvais. La société, la politique, la religion, Dieu et tous ces gens qui nous enseignent, qui nous informent, qui nous gouvernent, ces profiteurs, ces incapables, ces imbéciles, tous ceux qui peuvent et ne font rien. Je me révoltais. Et plus je me révoltais, plus j'étais fière de moi, me prouvant à moi-même que je n'étais pas insensible et fermée. Je concevais même des solutions. Elles étaient radicales. Il suffisait d'eux, et tant qu'on n'aurait pas. Quelquefois, suprême courage, je les exposais véhémentement au travail, parmi mes camarades ou chez moi. Et je parlais avec tant d'assurance, faisant taire les autres que parfois, je crois, les autres m'admiraient. Alors, quand j'avais bien pensé, bien parlé, bien crié et aussi bien rêvé, car il m'arrivait de me voir partant glorieux pour des grandes croisades, je m'endormais plus calme, car j'avais pour un moment endormi ma conscience. Mais elle se réveillait, me tourmentait confusément, et de loin en loin, dans un moment de grand silence, c'est pour cela que je craignais le silence. Comme quelqu'un d'autre en moi qui pensait, qui parlait, je m'entendais dire « Et toi, que fais-tu ?» Alors, vite, très vite, pour ne pas laisser la voix dangereusement grandir, je murmurais, agacé « Et qui puis-je ? Moi, si petit en cette masse humaine !» Et quand bien même je ferais quelques gestes, à quoi servirait-il quand les autres ne font rien? Et je ne faisais rien. Aujourd'hui, le sage avait parlé, et malgré moi, je l'avais écouté. Je devais le revoir, lui poser mes questions. Mais une fois encore, j'hésitais. Je devais le revoir. Décidément, je craignais son regard autant que ses paroles. Brusquement, je trouvais un moyen pour lui échapper. J'écrirai. Et je le fis. Mais je n'avais pas prévu un obstacle de taille. Comment commencer ma lettre? J'essayais tous les termes les uns après les autres. Aucun ne me satisfaisait. Je finis par écrire « Bonjour ». Il fallait conclure. Nouveau problème. Je le contournai et écrivis imprudemment peut-être « À bientôt ». Il était très tard. Je sortis glisser mon enveloppe sous la porte du sage et m'enfuis très vite. J'avais peur qu'il n'ouvre sa porte. Après beaucoup d'hésitations, le jeune en recherche revient voir le sage. Et pour une première fois, le jeune et le sage se sentiront une certaine amitié, une sorte de compréhension et de partage. Le sage en impose toujours, et c'était un bon moment pour les deux. N'oubliez pas la suite. Elle va venir dans « Je lis pour vous » en direct ou en rediffusion, mais aussi sur notre site. N'oubliez pas et partagez cette lecture. Au revoir, chers auditeurs, et à bientôt.